Il est 8h, c'est l'heure du journal présenté par Clara Lecoq-Réal. Et nous commencerons cette édition par ce nouvel appel à manifester lancé aujourd'hui par l'intersyndicale contre la réforme des retraites. Un test pour la suite du mouvement. Portrait à suivre de cheminots à la RATP en Ile-de-France qui nous expliqueront leur mobilisation. Nous tenterons ensuite d'expliquer les conséquences d'une baisse du taux du livret A. Il passera de 0,75 à 0,5% au 1er février prochain. Comment juger les morts et comment les défendre? Question soulevée en ce moment à Paris lors du procès de deux filières de départ en Syrie. Nous tentons de répondre à cette question. Dans ce journal encore, zoom sur la demande de Matteo Salvini en Italie. Le chef de la Ligue d'extrême droite ne veut plus de proportionnel pour les élections. Et puis, le goût qu'ont les Français pour l'actualité chute. Selon le baromètre de La Croix publié ce matin, seuls 59% des personnes interrogées s'intéressent à l'actualité. L'enjeu pour l'intersyndicale est aujourd'hui d'insuffler un second souffle, de retrouver une mobilisation conséquente et visible. La CGT, Force ouvrière, Solidaire, ainsi que la FSU, la CFE-CGC et trois organisations de jeunesse appellent à une journée d'action interprofessionnelle ce jeudi. Des rassemblements sont prévus un peu partout en France, dans la rue, dans les ports, les raffineries, les tribunaux et toujours dans les gares. Après 6 semaines de grève, les cheminots perturbent toujours le trafic ferroviaire, surtout en Ile-de-France avec la RATP. Annabelle Grelier est allée rencontrer ses grévistes au nord de Paris.
Au dépôt de Flandre, à Pantin, ils sont encore un noyau dur de 40% de grévistes. Les forces de l'ordre sont venues les déloger à plusieurs reprises, mais rien n'y fait. Riyad, le délégué CGT, avoue qu'il ne fait même plus d'AG tous les matins.
La base a pris le dessus, et tant mieux. La base a tout pris en main. Et c'est elles qui prennent les micros, c'est elles qui sont en avant. Et nous, autant que syndicalisme, on leur a laissé la main, parce que ce mouvement-là appartient plus à eux qu'à nous.
Eux, ce sont les conducteurs les plus déterminés, pas forcément syndiqués. Ils sont en grève depuis le 5 décembre et ne comptent pas s'arrêter. Soutenus par des enseignants, des agents territoriaux ou de la fonction publique, des groupes d'action se sont formés.
Bah c'est mieux qu'une AG. Au piquet de grève, rien que le piquet de grève du matin à 4h du matin, ils sont tous là. Et franchement, on a l'impression qu'on est une famille.
Yamina, conductrice de bus, est en grève depuis le début et ne compte pas s'arrêter là.
Non, il faut pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les cheminots et la RATP, on va pas lâcher. Et heureusement, on n'est pas tout seul. C'est ça qui est bien. Vous le voyez par vous-même aujourd'hui, il y a du monde.
Une soixantaine de personnes est venue en effet aujourd'hui partager un repas de solidarité avec les grévistes. Sandrine, agent à Pôle emploi, est de tous les piquets de grève.
On n'arrêtera pas. On n'arrêtera pas parce que comment tu vas expliquer à tes gamins que t'as rien fait quand ils n'auront plus rien? Parce que c'est la réforme des retraites, après ça sera la sécu et le reste. Tout ce qui nous reste. Donc comment tu regarderas tes gamins en face en leur disant « moi je me suis pas battue ». Moi mes enfants ils mangent des pâtes depuis un mois. Hein. Mais en attendant ils savent pourquoi je me bats. Je sais qu'en tant que fonctionnaire, femme, avec carrière hachée, période de chômage et tout, moi je crève dans la misère. Donc j'arrêterai pas. C'est aussi simple que ça.
Raymond, 76 ans, ancien ouvrier de la métallurgie, pourrait couler une retraite heureuse, mais impossible pour lui qui a connu mai 68.
Non, autrement on peut pas être heureux de voir autour de nous toute cette dégringolade. Et quand on nous explique que ne vous inquiétez pas, on aura 1000 euros, mais qu'est-ce que c'est que 1000 euros? Et aujourd'hui on demande aux jeunes de partir à 64 ans, 67 ans, qu'est-ce que c'est que ce monde-là? C'est pas un monde juste.
Au dépôt de Pantin, pas question de baisser les bras. Chansons et banderoles sont prêtes pour la manif.
On lâche rien. Voilà, ça c'est notre musique à nous.
C'était un reportage d'Annabelle Grelier à l'aube de cette nouvelle journée interprofessionnelle. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe répondait une fois encore aux cheminots grévistes. Il ne voit pas d'issue à cette grève et il estime qu'elle n'a que trop duré. Matignon évoque une perte d'1 milliard d'euros à la SNCF et à la RATP depuis le début du mois de décembre. Et ce matin, chez nos confrères de France Inter, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye reprenait les mots du Premier ministre.
Je pense que ça fait maintenant de très longues semaines que nos compatriotes, en particulier en Ile-de-France, subissent les effets de cette grève. Je crois que dans le même temps, les syndicats réformistes, comme le gouvernement, ont fait des pas les uns vers les autres, qu'il n'y a aujourd'hui au fond plus vraiment de raison que cette grève perdure. Et évidemment, comme le Premier ministre, j'appelle à ce qu'elle puisse cesser et que nous puissions, les uns et les autres, retrouver une vie normale.
En tout cas, face au gouvernement, l'intersyndicale se montre toujours déterminée, nous venons de l'entendre. L'intersyndicale qui annonçait hier encore une nouvelle journée de mobilisation prévue le 24 janvier, jour de présentation du projet de loi retraite en Conseil des ministres. Hier, lors d'une manifestation, un commissaire de police par ailleurs a été blessé à la main alors qu'il protégeait la Chambre du commerce et de l'industrie au Havre lors d'une manifestation. Au Havre, ce matin, le port est bloqué. Idem à Calais, Dunkerque, Rouen, Saint-Nazaire, La Rochelle et Marseille. Autre colère, autre mobilisation, celle des professeurs contre la réforme du baccalauréat. L'examen nouvelle formule donne plus de place au contrôle continu dès la classe de première. Épreuves qui vont débuter lundi prochain, mais qui sont boycottées par de nombreux enseignants à Paris ou à Montpellier. Ils estiment que les élèves n'ont pas pu s'y préparer. Ces professeurs sont considérés comme grévistes. Ils risquent en tout cas des retenues sur salaire, selon Florence Delannoy. Elle est secrétaire générale adjointe au SNPEDEN, le syndicat, principal syndicat des chefs d'établissement.
Ça fait partie normalement des missions d'un enseignant que de participer à l'évaluation des élèves. Donc effectivement, il y a des risques sans doute de retrait sur salaire puisque ça sera une forme de grève très certainement. Maintenant, c'est pas parce qu'un professeur va refuser de donner les sujets que l'épreuve sera forcément annulée. Ça va être très variable selon les établissements. Il y a pas mal d'endroits où ça se déroule tout à fait normalement, même si beaucoup de collègues regrettent que les sujets soient pas tous très adaptés, qu'il soit difficile à choisir, etc. Mais dans pas mal d'établissements, c'est en route.
Des propos recueillis par Hakim Kasmi. Diversifier les placements. Voici en substance l'objectif du ministre de l'économie qui annonce la baisse du taux du livret A dans les banques. Il est depuis 2017 à 0,75% et il passera au 1er février à 0,5%. Bruno Le Maire estime dans les colonnes du Parisien ce matin qu'il aurait été irresponsable et incohérent de maintenir ce taux plus haut. Mais clairement, l'épargnant sera perdant pour Philippe Crevel. Le directeur du Cercle de l'épargne est interrogé par Anne-Laure Jumet.
L'inflation est supérieure au taux du livret A, donc le rendement réel du livret A est négatif. C'est déjà le cas depuis 2016, mais là c'est une confirmation. Et d'ailleurs c'est une conséquence de la nouvelle formule qui lie plus le taux du livret A, on va dire, au marché monétaire qu'à l'inflation. Et donc on met un terme à un cycle qui avait été engagé en 83-84 de maintien du pouvoir d'achat du livret A et également au processus qui avait été institué en 2003 par Jean-Pierre Raffarin qui était de garantir que le livret A rapportait plus que l'inflation. Donc c'est vrai qu'on change de période parce qu'il y a un contexte économique et financier complètement différent.
Mais ça reste malgré tout le placement préféré des Français.
Le livret A offre donc plusieurs avantages pour les Français. Pas forcément le rendement, mais là, il offre la sécurité, la garantie en capital, la liquidité. Vous pouvez donc mettre 100 euros sur votre livret A aujourd'hui et retirer demain, sans perte, sans frais. Et puis, il y a toujours cette idée qu'il n'y a pas d'impôts, pas de prélèvements sociaux. Et pour l'épargne de précaution, pour l'épargne du lendemain, le livret A, même s'il ne rapporte plus beaucoup, reste, on va dire, un placement utile.
C'était Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. Le réalisateur Christophe Ruggia sera présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Le cinéaste de 55 ans est accusé d'agression sexuelle sur mineurs et harcèlement sexuel par l'actrice Adèle Haenel alors qu'elle était adolescente. Lui reconnaît des attouchements, mais il accuse l'Église de ne pas avoir su réagir face à ses pulsions. L'ancien prêtre Bernard Prena a pris la parole hier pour le deuxième jour de son procès à Lyon. Il a également révélé avoir lui-même été abusé dans sa jeunesse. Devant la cour d'assises de Paris maintenant, on attend aujourd'hui le verdict dans le procès de 24 djihadistes présumés. La plupart sont partis en Syrie ou sont morts, mais ils sont tout de même jugés, Florence Turme.
5 individus présents et 19 chaises vides, c'est l'illustration de ce jusque-boutisme, commence l'avocat général Benjamin Chambre. L'illustration aussi d'une politique pénale assumée en matière de terrorisme. La justice française continue de juger et de condamner ceux qui sont supposés morts par mesure de sûreté car il est impossible d'établir juridiquement leur décès et qu'il faut se prémunir d'un éventuel retour, rappelle le parquet. Mais ce procès aura également donné lieu à une situation inédite. Au premier jour de l'audience, un avocat s'est présenté pour assurer la défense de l'un de ses 19 absents. Quentin Roy, l'un des premiers jeunes de la filière de Sevran à avoir rejoint la Syrie en septembre 2014. 16 mois plus tard, sa mère reçoit un message anonyme qui lui annonce sa mort dans une opération suicide. Puisqu'on juge un mort, il peut tout aussi bien être représenté, a fait valoir l'avocat mandaté par la famille. Situation particulière que la cour a tranchée sans grande difficulté juridique. Le code de procédure pénale mentionne très clairement notamment le droit d'un accusé à être représenté par un avocat, même en son absence. Maître Antoine Horry sera donc le premier à s'exprimer ce matin sur les bancs de la Défense. À l'encontre de Quentin Roy et de 17 autres accusés fantômes, l'avocat général a requis la peine maximale, 30 ans de réclusion criminelle.
Donald Trump parle d'un moment historique après la première phase de l'accord commercial avec la Chine. Le texte a été signé hier, mais il n'empêchera pas les surtaxes dans les semaines à venir. La Chine s'est engagée à acheter pour 200 milliards de dollars de biens et services américains supplémentaires, ainsi que 32 milliards de produits agricoles. Les États-Unis encore, où a été franchie une nouvelle étape dans le processus de destitution de Donald Trump. La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a signé hier l'acte d'accusation. Elle l'a ensuite transmis au Sénat pour un procès qui doit débuter mardi prochain. Donald Trump est toujours accusé d'avoir téléphoné à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky l'été dernier. Il tentait d'obtenir des informations sur son rival démocrate Joe Biden. Partons maintenant en Italie, où Matteo Salvini, désormais premier opposant au gouvernement, Matteo Salvini donc veut changer la loi électorale dans son pays. Il demande à supprimer la proportionnelle, Bruce de Galzin.
Pour Matteo Salvini, qui gagne, gouverne et qui perd, va dans l'opposition. C'est en tout cas ce qu'il voudrait, mais ce n'est pas ce que prévoit la loi électorale, qui aujourd'hui favorise les coalitions de petits partis. Avec une forte dose de proportionnelle, elle permet aux partis qui recueillent peu de suffrages d'obtenir des sièges et ainsi de multiplier les possibilités de s'allier pour gouverner. Mais ce n'est plus du tout au goût du chef de la Ligue qui caracole en tête des sondages à plus de 30% des intentions de vote. Rien de mieux qu'une loi 100% majoritaire qui donnerait une prime aux gagnants. La coalition au pouvoir, elle, n'en veut pas et souhaite au contraire un système proportionnel à l'allemande avec un seuil minimum à 5%. 5% comme le nouveau nom donné au mouvement 5 étoiles par ses détracteurs. Si le référendum est accepté par les juges, il sera sans aucun doute politisé au maximum et pourrait déboucher sur des élections anticipées réclamées avec insistance par Matteo Salvini.
Et la Cour constitutionnelle doit se prononcer sur cette demande de Matteo Salvini aujourd'hui. La décennie écoulée entre 2010 et 2019 a été la plus chaude jamais observée sur notre planète. Les Nations Unies le disaient hier, confirmant ainsi l'inexorable réchauffement climatique de la Terre. Il a d'ailleurs été marqué par une multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes, Véronique Roberotte.
Il y a les températures qui battent record sur record, mais il y a ce que ces records induisent en matière de phénomènes climatiques. Extrême. Ces phénomènes sont connus mais ne semblent plus connaître de limites. En témoignent les méga-feux qui ravagent actuellement la planète. L'Australie brûle depuis des mois, mais ce n'est pas le seul endroit au monde. Ces feux, incontrôlables à cause de sécheresses répétées, ont touché en 2019 la Sibérie, l'Alaska, l'Amérique du Sud ou encore l'Indonésie. Une seule étincelle suffit a déclenché un désastre écologique. L'activité cyclonique a légèrement augmenté en 2019. 66 cyclones tropicaux répertoriés jusqu'à début décembre, contre 56 sur la même période en 2018. Des cyclones parfois très meurtriers. Celui qui a ravagé le Mozambique, le Zimbabwe, le Malawi en mars dernier a fait plus de 1000 morts, ravagé 800 000 hectares de cultures, provoqué aussi le déplacement forcé de 180 000 personnes. 2020 et la décennie prochaine devraient, à cause du réchauffement climatique, être marquées par des exodes massifs.
Voilà donc pour cette actualité du jour. Actualité, c'est vrai, peu réjouissante, mais qui explique le monde qui nous entoure. Ce matin, un chiffre de plus nous alerte et alarme certains à propos de l'actualité. Les Français ne sont plus que 59% aujourd'hui à suivre l'actualité avec un intérêt assez grand ou très grand. C'est 8 points de moins que l'année dernière, selon le baromètre du quotidien La Croix, réalisé par l'Institut Kantar. Et cela inquiète Guillaume Goubert, le directeur de La Croix.
Cette baisse est spectaculaire. 8 points de baisse en un an, c'est très fort. On risque, si on continue sur une pareille tendance, parce que pour l'instant, ceux qui s'intéressent à l'actualité sont encore majoritaires dans notre baromètre, mais si les choses continuent dans cette tendance, les courbes vont se croiser et bientôt, ceux qui disent qu'ils manquent d'intérêt pour l'actualité vont devenir majoritaires. Comment expliquer le décrochage de cette année? Je me pose la question de savoir si c'est un manque d'intérêt pour l'actualité ou un manque d'intérêt pour l'actualité que proposent les médias. Parce que je ne vois pas tellement sur le marché de l'information vraiment de signes clairs d'une baisse de la consommation. Je veux dire, les audiences, notamment audiovisuelles et numériques, restent extrêmement importantes, voire florissantes. Donc, on n'a pas l'impression que la consommation baisse. Donc, je me demande si c'est pas plutôt l'insatisfaction qui augmente que le manque d'intérêt. C'est-à-dire que les Français ne seraient pas, dans cette hypothèse, ne seraient pas satisfaits de ce que les médias leur apportent.
C'était le directeur de La Croix, Guillaume Goubert, interrogé par Stanislas Vazak. En espérant vous satisfaire tous les matins sur France Culture avec cette actualité qui, c'est vrai, n'est pas toujours rose, je vous livre maintenant la météo du jour. Le temps sera doux ce jeudi, pluvieux sur la Bretagne, ensoleillé ailleurs, avec ce matin 6 degrés à Strasbourg et Lille, 8 à Paris, Nantes et Lyon, 9 degrés à Nice, 12 à Bayonne.